bulletin va partir. Prenez garde à la fermeture des portes. Attention au départ.
Chers auditeurs de Radio Feltin, bonjour, bonsoir. Vous êtes bien sur le 106.6 et ce petit tapis est très entraînant. On est tous là dans le studio Bambi, je crois, maintenant on l'appelle comme ça. Et nous sommes avec William qui sort tout juste d'un atelier animé par Pan. Alors c'est quoi Pan ? Et l'atelier s'intitule « Écrire la théorie ».
Alors effectivement, c'était dans le cadre du festival Horizon Géographique. Il y a tout un atelier qui se passe en 3 épisodes et qui a commencé aujourd'hui à 15h, 15h30. Effectivement, ouais, le thème c'était écrire la théorie. Alors je vous lis un petit peu les 2 premières lignes du programme. Écrire la théorie est un cycle d'ateliers de réflexion consistant à approcher la théorie dans les divers domaines où elle peut se pratiquer, philosophie, anthropologie, poétique et textes littéraires. Enfin bon, c'était une discussion et un échange de 3h30 avec comme invité Bruce Bégaud, qui est philosophe, écrivain, romancier, qui était là pour expliciter sa théorie ou sa théorisation pour écrire ses œuvres. Voilà. J'ai un peu du mal parce qu'on sort juste de l'atelier et c'est quand même sacrément complexe. On était donc à l'étage
de la gare.
On était une vingtaine autour d'une grande table.
Bruce parle.
Bruce discutait. Nous, on était là, on l'écoutait. Moi, j'avais un peu des attentes autour de comment il allait peut-être m'alimenter sur écrire la théorie, qu'est-ce que c'est. Peut-être pas tant. Bon, on va en rediscuter. À côté de moi, j'ai un invité, Christophe Anna. Toi, tu étais là pour introduire l'atelier en début d'après-midi. Tu as présenté les 3 intervenants.
Oui, c'est ça.
Qui vont... Bruce Bégaud. Alors, il faut que tu parles un petit peu près du micro.
Bruce Bégaud, Jean-Marie Glaise, Alexandre Pierre-Pont, qui sont les 3 invités.
Donc, sont 3 invités. Ouais. Donc, Bruce était pour aujourd'hui, puis les 2 autres pour demain matin et demain après-midi.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Ouais. Donc, cet atelier est animé, enfin, plutôt animé et proposé par le collectif Pan, qui est phénomène artistique non identifié. Toi, tu les connais un petit peu ?
Oui, je les connais parce qu'ils m'avaient invité les années précédentes à faire des performances dans leur festival de poésie. Donc je suis venu volontiers. Il se trouve que mon travail de poésie a quelque chose à voir avec des questions, comment on pourrait dire ça, d'exploration, de testage. Et qui donc, d'une certaine façon, s'apparente à des problèmes d'écriture théorique, pas seulement poétique, mais théorique, et qu'aussi, je m'intéresse à des questions de théorisation. Donc ils m'ont demandé d'encadrer cet atelier-là.
Enfin, mais voilà. Tu as fait ça bien quand même, parce que tu essayais de lier ces 3 auteurs. Je ne sais pas si les 2 autres sont aussi, je le découvrirai demain, mais auteurs d'œuvres littéraires.
Alors les 2 autres, il y a Jean-Marie Glaise, c'est un auteur qui est, disons, considéré comme un poète et un poéticien. Ce qu'on appelle la poétique, c'est cette vieille science qui existe au moins depuis Aristote, peut-être même depuis Platon, qui consiste à se demander qu'est-ce que c'est que créer quelque chose, et en particulier une œuvre littéraire. À quelles conditions on considère que quelque chose qui est écrit est une création ? Il y a plein de critères qui, depuis cette antiquité-là, ces questions sont posées, reposées avec des hypothèses et des discussions infinies. Voilà, ça continue. C'est comme les mathématiques et la physique, on ne saura jamais véritablement ce qu'est la matière, on aura toujours des discussions là-dessus. C'est la même chose pour qu'est-ce qu'une œuvre, qu'est-ce qu'une création, qu'est-ce qu'une fiction. Qu'est-ce que c'est que l'expression poétique ? Qu'est-ce qui n'en est pas ? Pourquoi on dit que ça n'en est pas ? Etc.
Ouais. Voilà. Et là, le thème, c'était écrire la théorie. Alors toi, tu as essayé de synthétiser ça en introduction, en parlant de l'ordinaire. Et que ce qui liait ces 3 personnes, c'était le traitement de l'ordinaire. du fait ordinaire, à la différence de du fait extraordinaire qu'on pouvait, tu disais, souvent retrouver dans le discours politique, entre autres, enfin, assez surtout, largement, mais on reste rarement d'ordinaire, on veut faire de nos vies du quotidien l'extraordinaire.
Oui, non, mais la question de l'ordinaire et de l'extraordinaire, c'est une question qui est vieille, j'ai envie de dire, comme la littérature, puisque... Bon, vous êtes allé, on vous a infligé ça, j'imagine, quand vous étiez petit, des cours de littérature, on vous expliquait que toute la littérature émanait d'Homère. Et Homère, il s'intéresse à quoi? Il s'intéresse à des dieux, à des héros, à des grandes guerres qui s'éternisent, à des héros qui boudent et puis qui tout d'un coup sortent et puis massacrent d'un seul coup d'épée des centaines de gens. Donc c'est... À l'origine de la littérature, il y a cette espèce de matrice qui est une grande narration de phénomènes totalement extraordinaires. Puis il y a ensuite Ulysse, avec sa ruse, son astuce, même chose, c'est un cerveau totalement extraordinaire, des aventures extraordinaires, des magiciennes, des cyclopes, enfin bon, on connaît tout ça. La littérature, elle émane de préoccupations et de techniques de représentation qui concernent des événements extraordinaires avec des personnes extraordinaires. On retrouve ça, Princesse de Clèves et compagnie. C'est toujours des choses qui ne se passent pas en bas de chez vous, à portée de main. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment dans la réflexion philosophique et en littérature où tout d'un coup on s'est mis, alors ça commence avec Denis Diderot, et puis ça, au XIXe siècle évidemment avec le réalisme, mais malgré tout le réalisme s'intéresse dans le commun, à des choses qui malgré tout relèvent de l'extraordinaire. On s'intéresse quand même essentiellement, je ne sais pas moi, des tueurs en série, même si ils sont à côté de chez nous, c'est quand même pas tous les jours qu'on se fait attraper par un tueur en série. Mais l'ordinaire dont je parle ici avec Bruce Bégout, Jean-Marie Glaise et Alexandre Pierrepont, c'est vraiment le vrai ordinaire, c'est-à-dire des choses qui appartiennent à notre vie quotidienne, qui se répètent, qui apparemment se répètent tellement et sont tellement ordinaires qu'on ne les voit plus. C'est cet ordinaire-là qui... échappe à notre vigilance, en quelque sorte, qui devient l'objet d'une réflexion, d'une éventuelle théorisation philosophique, et aussi d'une préoccupation artistique et littéraire.
Et c'est ce que fait Bruce, entre autres, dans ses œuvres, où il prend, par exemple, lieu commun, il prend les motels américains, parce qu'il habitait deux ans là-bas, il disait.
Il va se permettre de vous décrire, par exemple, l'effet que produit l'air conditionné dans les motels, qui n'est pas exactement l'effet que produit l'air conditionné dans un supermarché. Dans quelles conditions mentales ça vous met d'entrer dans une chambre comme ça?
Mais c'est ça, il prend le quotidien, des éléments du quotidien, souvent, et il va les percuter avec une théorie ou une réflexion ou une pensée qu'il parcourt sur le moment.
Voilà, par exemple.
Et il parle de cheval de Troie en disant je vous donne une histoire dans laquelle j'intègre ma réflexion et ma théorie. Et souvent, cette histoire va partir d'une découverte de mon propre quotidien et d'une pensée qu'il a eue.
C'est-à-dire que s'ancre. Dans une expérience d'un phénomène parfaitement, je dirais, banal, quelque chose qui est la mise en œuvre d'une conceptualisation sur existentielle, par exemple, sur le devenir de l'homme, sur la situation politique, etc.
Ouais. Et alors là, sur l'atelier, qui était écrire la théorie, quelle était l'idée autour de cet atelier-là, d'avoir un auteur qui nous parle de sa propre réflexion sur sa propre écriture ou en gros une théorisation de la théorie. Mais quel intérêt de faire ça? Et je vous posais la question, est-ce que l'intérêt, il est pour nous de nous permettre de nous questionner sur ce qui est écrit, ou alors de nous donner une sorte de méthodologie pour apprendre aussi à théoriser?
L'intérêt, c'est que, enfin, je dirais que écrire et théorie, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas véritablement ce que c'est qu'écrire. On peut utiliser le terme d'écriture pour décrire plein de choses différentes. Par exemple, le cinéma. On peut parler d'écriture cinématographique. On peut même parler d'écriture radiophonique. Donc, le terme d'écriture permet aujourd'hui de désigner vraiment tout un tas de pratiques qui ne s'inscrivent pas forcément dans de l'inscription, comme il y en a par exemple sur cette table-là. Donc ça, c'est la première des choses, le caractère assez flou du concept d'écriture. Et puis aussi, évidemment, le caractère encore plus flou, peut-être, que de celui de théorie. Ces choses-là, on ne sait pas véritablement ce que c'est. En revanche, ça nous intéresse. Pourquoi ? Parce que la théorie, c'est tout bête. Mais on sait qu'au moins, elle a un certain type d'usage. La théorie, elle nous permet de parler des choses un peu finement. Vous voyez, les domaines dans lesquels il n'y a pas de théorie, eh bien, en général, les discussions sur les objets sur les objets qui peuplent ces domaines, ce sont des discussions qui tournent court. Par exemple, je vous prends un domaine où il y a relativement peu de théorie, celui de la mode ou celui du vin. Il y a un peu de théorie, mais pas beaucoup par rapport, par exemple, à la littérature ou aux mathématiques. Eh bien, une fois que les gens vous ont dit « il a une belle robe, j'aime bien sa couleur », ça s'arrête là. C'est bon. Ah oui, ça me plaît. Ah oui, toi, ça te plaît, mais moi, ça me plaît pas. Ça se résume à ça, des discours un peu relativistes, ce qu'on appelle des discours de comptoir. Même chose pour les fringues. On se dit « oh, c'est bien, ça me va bien. Ah ouais, ça me va bien. Tiens, le bleu, ça va bien. Vous avez des jolis yeux bleus, le t-shirt avec les rayures bleues vous va bien. » Voilà, une fois qu'on a dit ça, pof, ça tourne court. Ouais. On tombe d'accord, puis finalement, il n'y a pas de grands enjeux. Quand vous êtes dans un domaine qui est innervé de théorie, tout d'un coup, les discours se creusent. Les critères qu'on va utiliser pour défendre ses positions, se creuser, et puis surtout, on arrive. La théorie, elle permet de, comment dire, d'ancrer une pratique, des objets, dans autre chose que son propre domaine. Vous voyez, par exemple, un des enjeux de la théorie depuis l'Antiquité, c'est de montrer que derrière la tragédie qu'on vous a montrée sur scène, où vous avez des gens qui jouent des rôles, il y a des enjeux politiques, parce que le citoyen, il a besoin de la tragédie pour pouvoir Aristote, il parle de catharsis, c'est-à-dire se purger d'un certain nombre de sentiments. Il a besoin d'éprouver des sensations fortes, avides. Et c'est un besoin d'ordre politique et social, ça. Parce que si vous ne les éprouvez pas, ces sensations fortes, avides, bah vous pouvez, par exemple, devenir violent, ou vous pouvez devenir un être veule, etc. Ouais.
Mais, moi, j'écrivais en écoutant Bruce des choses qui nous ont tous parcourues. Quand on a une intuition, on a une idée qui nous parcourt, et on se dit, on a envie d'aller plus loin, de faire un déroulement de cette pensée.
Ouais.
Des fois, c'est juste une petite... Il donnait l'exemple dans un des cours qu'il donnait, où il a eu un mot, et de ce mot-là, il en a écrit un bouquin.
Ouais.
Et ça, je trouvais ça intéressant, et ça revient à l'ordinaire, à la question de l'ordinaire, où on a quelque chose qui nous percute,
ouais.
Et comment on se met à réfléchir, à écrire, et donc à théoriser cette idée-là. Et j'en reviens donc à l'atelier, où moi, on a tous, je pense, expérimenté ça, mais comment on en devient pour autant théoricien ? Ou quel est l'intérêt aussi de se retrouver là, autour d'une table, pour écouter un théoricien sur ses propres théories ? Et ça me questionne.
Ouais, vous avez raison.
Comment moi, ce que je trouve intéressant, lui, il exposait le déroulement de sa pensée. On sent qu'il est, voilà, il est pris par des références, pris par ses écrits, pris par une intelligence qui cultive, qui fait grandir. Moi, ça m'intéresse, ça. Comment, ensemble, avec d'autres autour de la table, je me mets à écrire. Et finalement, en tant que un peu spectateur de cette rencontre-là, je me suis retrouvé à écrire un peu de mon côté, mais... Il m'a permis de décrocher à des moments dans sa parole, qui était aussi très intellectualisée, de décrocher pour aller écrire moi-même.
Oui, vous avez raison.
Et comment j'aurais aimé, avec d'autres, me mettre à écrire et à penser théorie.
Oui. Alors, si vous voulez, étant donné qu'on ne sait pas bien ce que c'est qu'écrire, et encore moins écrire de la théorie, là, c'est vrai que par certains moments, il lâchait un certain nombre d'indices qui étaient intéressants. C'est lorsqu'il décrivait des actes. On peut se dire que quand on ne sait pas bien ce que c'est qu'une chose... On peut se demander, on peut analyser cette chose qui est difficile à décrire et qu'on ne sait pas bien ce que c'est. On peut l'analyser en termes de faire. Qu'est-ce que l'on fait pour réaliser cette chose qu'on ne sait pas bien définir ? Et c'est vrai qu'il s'est mis à certains moments à indiquer un certain nombre de gestes qu'il faisait lorsqu'il écrivait. Par exemple, noter un truc, en discuter, récupérer une citation d'un de ses élèves ou une remarque d'un de ses élèves, la noter, puis ça fait démarrer quelque chose comme
ses carnets. Il parlait beaucoup de ses carnets, et en fait, il écrit toutes ses idées, les photographies, après, il entoure en rouge, c'est un magma d'idées, d'écrits, et il va les orienter pour les orienter vers des possibles œuvres ou des essais ou des romans.
Alors c'est là qu'on se rend compte que écrire, ça peut vraiment se décrire comme un enchaînement de gestes. Et ces gestes s'articulent les uns aux autres, mais chacun d'entre eux peut être totalement surprenant. Par exemple, Alphonse de Lamartine vous disait que lui, pour écrire, il avait besoin de monter à cheval, et que donc l'acte de monter à cheval, c'était constitutif de l'écriture.
Ouais.
Bon, Bruce Bégou, il a besoin de faire des photos, il a besoin de prendre quelques petites notes sur des carnets, c'est peut-être moins inattendu que monter à cheval, Mais c'est quand même ça, c'est intéressant de l'entendre.
Mais oui, mais moi ce qui m'intéressait, c'était à un moment de découvrir quel est moi mon processus créatif. Ah, est-ce que je l'ai trouvé? Je ne suis pas sûr. Et je voyais autour de la table, il y en a qui dessinaient.
Oui.
Il y en a qui faisaient des comptes rendus schématiques, des photos. Mais quel est le mien? Ça m'intrigue de le savoir.
Ah bah.
Ça peut être de la vidéo, ça peut être d'autres choses, j'ai des intuitions, mais je ne suis pas sûr que...
Et puis peut-être que ça va changer d'ailleurs, peut-être que vous en aurez un aujourd'hui, puis que demain, ça changera. Vous savez, moi, quand j'écris, je fais des choses à chaque fois différentes. La seule chose qui est restée, c'est que j'enregistre des gens qui parlent. Parce que je trouve que les gens disent toujours des choses. Par exemple, là, je suis très content de vous entendre parler, de peut-être récupérer là, ce qui va se dire, parce que tout ce qui se dit... Enfin, je trouve que les paroles spontanées des gens... sont totalement inattendus dans leur formulation, dans leur intonation, totalement. Et capter comme ça des voix, ça peut être quelque chose... Surtout dans des circonstances... Que vous voyez, capter de façon larvée, pas d'arriver comme ça, comme on fait là, je vais vous laisser parler, alors on fait attention aux phrases qu'on fait un peu. Mais les gens qui, tout d'un coup, qui se mettent à parler, tac, vous enregistrez, vous avez quelque chose. Mais si on analyse l'écriture en termes gestuels, et si on suit les écrivains... et on leur demande, est-ce que ça, ce geste-là, fait partie de ton écriture, et qu'ils se mettent à y réfléchir, je pense qu'on aurait, par exemple, des enchaînements qui pourraient être parfaitement surprenants pour l'analyse littéraire. Parce qu'écrire, c'est certainement pas se mettre à une table, comme ça, la nuit venue, avec une bougie, le cœur saignant, et rédiger un truc, c'est certainement pas ça. C'est un enchaînement de gestes beaucoup plus ramifié dans l'existence, beaucoup plus incrusté dans des habitudes. Et puis, il y en a même un certain nombre dont on doit... peut-être probablement pas conscience, quand on nous demande, nous, écrivains, qu'est-ce que vous avez fait pour écrire. Voilà ce que je peux dire.
Ok, merci. Demain, on est avec Jean-Marie Glaise.
Oui.
Toi, tu seras là aussi pour présenter un petit peu, relancer la discussion. C'est intéressant d'aller chercher un petit peu.
Parce que comme c'est compliqué, tout ça, on se répand. Mais même, d'ailleurs, probablement moi aussi, j'ai tendance à le faire. Là, il faut que quelqu'un vous dise, attendez... Là, on s'en fiche de ce que vous racontez. On a besoin que vous répondiez aux questions. Un des principes de ces ateliers, c'est que les gens ne se défilent pas. On les confronte à des questions du genre, pour vous, la théorie, qu'est-ce que c'est concrètement? Et on n'a pas envie que ces gens, tout d'un coup, se mettent à nous parler de « Tiens, pour Blaise Pascal, la théorie, c'est ça. Alors ça m'intéresse bien, Blaise Pascal. » Et qu'on ait comme ça des sortes de dérives, comme ça, de radeaux de la méduse sur Blaise Pascal. On s'en fiche. Nous, on veut qu'ils nous parlent de ce qu'ils font. Voilà.
Ok. Je crois que le temps est passé. Merci à toi, Christophe Anna, et puis on se voit demain.
Ouais, demain donc Glaise et Pierre.
Demain, Glaise c'est à 10h30.
Voilà.
Et puis avec Alexandre Pierrepont à 15h, comme aujourd'hui, jusqu'à 18h.
Glaise, c'est vraiment la théorie de l'écriture littéraire, et Pierrepont, c'est un anthropologue, musicologue, donc il s'agira vraiment de conceptions de la théorie qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais voilà.
Bon, intéressant. Merci.
Ben de rien. À bientôt.
Merci Christophe pour cet éclairage. Merci William pour ce petit bilan à chaud. Demain tu y retournes?
Je pense.
On en recausera en tout cas. On va vous présenter désormais maintenant le jeu de peindre. Une petite présentation par Mélanie. Ça se déroule également à la gare de Felletin dans le cadre d'Horizon Géographique. Voilà, une petite présentation non dénuée de théorie également.
Poste. C'est quoi poste? Radio.
Ah oui, radio.
Radio.
Pas mal.
Creuse encore.
Ça commence par un F.
Ah oui, F. Ah bah, Felletin.
Felletin, ouais.
Ça rentre, hein, ça rentre, ça marche.
Tiens, yes. Et là, il y a la moitié d'un hot dog.
Saucisse.
Une saucisse.
Point 6.
Saucisse, point 6.
Saucisse, ouais, point 6. Saucisse, point 6.
C'est l'été sur Radio Felletin. 106.6.
Donc je vais juste faire un test pour la voix, si le gain est bon.
Oui, le clos-lieu, la définition qu'en donne Arnaud Stern, donc c'est un espace particulier aménagé pour le jeu de peindre. Donc sa spécificité, comme son nom l'indique, il est un espace sans regard sur l'extérieur, dont le climat est permanent, et donc il n'est ni tributaire, ni de l'heure, ni de la variabilité météorologique. Alors, on a monté un clos-lieu dans la partie, dans l'aile droite de la gare, qui était l'ancienne habitation des cheminots qui dormaient là. Comme son nom l'indique, c'est un clos-lieu, donc c'est un lieu clos, préservé des regards extérieurs, mais surtout dont toutes les parois sont recouvertes d'une surface où il est possible d'enfoncer des punaises facilement, afin que chaque personne soit autonome et notamment les enfants puissent installer facilement leurs feuilles pour venir peindre dessus. Petit à petit, en fait, cet endroit ne change pas, mais les feuilles de fond se maculent.
Le coucher de soleil,
mais je sais pas le
cas. On le trempe dans l'eau et un peu dans la peinture.
Attends,
je pars. Sinon, regarde, ça fait des gros pâtés après, tu sais. Et après, sur ta feuille. Tiens, il y a une petite goutte de rouge dans le bord d'eau. Je vais la nettoyer. Tac, voilà.
Ah, c'est du Bordeaux, ça?
C'est du Bordeaux.
Moi, je fais le coucher de soleil.
Les petits pinceaux en dessous, le gros pinceau.
Alors, au centre de ce clos-lieu, il y a l'outil essentiel de l'atelier du jeu de peintre qui s'appelle la table palette. Donc, en fait, c'est une planche étroite dans laquelle s'inclut un godet d'eau et un petit godet en porcelaine qui vient recevoir la couleur. Donc, du coup, si on se balade, là, tu vois, il y a le blanc, le rose, le violet, le bleu ciel, le gris, le bleu outre-mer, le vert émeraude, le vert d'eau, vert turquoise clair. Ensuite, il y a un vert un peu pelouse, un jaune, un ocre, une couleur un peu chair, un orange, un rouge, un bordeaux, un marron un peu rouge, un marron classique et un noir. Voilà, elles sont toutes mises les unes à côté des autres. Et les joueurs du jeu de peindre tournent autour de cette table palette et viennent utiliser les pinceaux à tour de rôle et en fonction de ce qu'ils ont envie de peindre et de la couleur qu'ils ont besoin d'utiliser. Ce qui est intéressant en fait dans ce protocole, c'est que chaque personne peint de façon individuelle sur sa feuille, mais il y a un espace du commun qui est l'espace de la table palette, qui devient un endroit où il y a un petit ballet, une sorte de petite chorégraphie qui petit à petit s'opère et qui fait que tous les participants acquièrent petit à petit la patience, le respect de l'autre, mais il peut aussi se faire des petites blagues. Voilà. Donc il y a une vraie petite société qui s'installe bienveillante à l'intérieur du jeu de peindre. Tout ce qui est peint dans le clos-lieu est méticuleusement archivé, daté, avec le nom de la personne derrière, et rangé dans des grands cartons à dessin. Et donc chaque personne peut reprendre, si elle le souhaite, ses peintures, comme elle peut décider qu'elles sont terminées et passer à d'autres peintures.
Le petit coucher de soleil.
Sinon on peut... Ah bah là, j'ai pas l'heure. Ouais. J'ai plus la notion de l'heure dans l'atelier.
Il est 15h05.
Voilà, parfait. Vous pouvez continuer. Tu veux une feuille au-dessus? Je peux faire une pause et revenir? Non, c'est pas le... On peut pas trop. Hein.
Bon, tu peux sortir, hein, si t'as besoin, bien sûr.
Ouais, c'est juste pour... Oui, pas de soucis. Il y a des toilettes, il y a de l'eau...
Du
coup, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ce dont parlait vraiment Mélanie, l'idée de retrouver juste le plaisir de la trace. Et en fait, j'ai pensé une anecdote qui m'est revenue hier, en fait, de la première expo que j'ai vue quand j'étais petite fille. On va dire rencontre avec la picturalité, c'était au musée d'Orsay. C'était une expo de Van Gogh et j'ai vraiment le souvenir d'être enfant et d'être happé par la couleur, le mouvement, et d'avoir une envie très forte de manger la peinture que je voyais. Enfin, vraiment un truc très enfantin, très ludique et très... Et en même temps, d'avoir été vraiment happé et d'être dans une sorte de petite frustration. C'est le musée d'Orsay et on ne peut pas toucher et on ne peut pas... Voilà.
Du coup, Mélanie, toi, tu l'utilises, enfin, tu le fais aussi, l'atelier?
Ah bah non, parce qu'il faudrait quelqu'un à ma place.
Mélanie, par exemple, quand on s'en va ou quand t'es tranquille,
il y a besoin d'être tous ensemble. Bien sûr, un tabouret. Tiens, hop,
C'est pour monter dessus?
Non, pour s'asseoir.
C'est pour s'asseoir. Est-ce qu'il va être assez haut? Je suis pas sûre.
Non.
Ah non.
Je crois que lui, il sera mieux pour monter dessus.
Ouais, t'as besoin d'être plus haute.
En haut, c'est le pays du paradis.
Tiens, regarde, je te le place.
Et alors, pour les gens qui veulent rejoindre l'atelier du jeu de peindre, tu peux nous dire comment ça se passe? Est-ce que c'est encore possible et quand c'est?
Alors oui, c'est encore possible. C'est tous les jours, une séance le matin, une séance l'après-midi. Comme je le disais, comme il faut un peu de temps pour appréhender ce lieu et s'y sentir bien, c'est vrai qu'on avait plutôt préconisé de s'inscrire sur la semaine afin d'avoir 5 séances au moins consécutives. Donc on n'est pas obligé de venir et le matin et l'après-midi. Si on s'inscrit sur la semaine, on vient une fois, soit le matin, soit l'après-midi. Donc vous pouvez prendre les inscriptions auprès de Quartier Rouge, dont je n'ai pas le numéro en tête, mais tu pourras leur redire, et puis venir ou venir nous rejoindre spontanément. Donc il y a des séances le matin de 10h à 11h30, mais il y a certains jours où c'est 9h-10h30. Voilà. Et ensuite, l'après-midi, c'est de 14h à 15h30, tous les après-midi.
Merci Pierre pour cette petite échange avec Mélanie. Et donc maintenant, nous allons nous diriger vers Charlène, qui est à ma gauche. Bonsoir Charlène.
Bonsoir.
Charlène, tu es allée hier soir, à l'issue de l'enregistrement, devant la gare,
oui.
Entre la gare et la baraque à Méliès exactement, et là, il se passait un truc avec des gens.
Il se passait un truc un peu bizarre. Il y avait une très très grande table avec plein de gens tout autour qui parlaient, qui parlaient.
Et ça s'appelait donc le speed meeting.
Exactement.
T'es allé enquêter pour nous. Bon, on va vous lancer ça tout de suite.
Bonjour.
Bonjour.
Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe?
Alors nous avons ici un speed meeting, c'est-à-dire qu'on a deux lignes de personnes autour d'une table. Et c'est par binôme, et au milieu de chaque binôme, du coup, il y a des sujets de conversation qui sont posés sur la table, et ils discutent de ça pendant 6-8 minutes, et après, on sonne, et hop, ils se décalent à droite, ils changent d'interlocuteur, et ils changent de sujet. Voilà, comme ça, s'ils tombent sur quelqu'un qu'ils n'aiment pas, ben, ils ne causent pas trop longtemps, et s'ils tombent sur quelqu'un qu'ils aiment, ils peuvent causer avec lui après au repas. C'est complètement artificiel, mais comme ça, au moins, on est obligé de parler avec quelqu'un.
Ouais. On est forcé.
Voilà.
Pendant combien de temps?
Du coup, chaque échange, ça dure entre 6 et 8 minutes. Et là, on s'en est fait 5 pour l'instant, 5-6. Voilà, peut-être qu'on... Je pense qu'on va arrêter à 5 et puis ils continueront après. Ou peut-être on en fait encore un. On va voir leurs énergies au soleil, ce que ça donne.
Parce qu'il y a beaucoup de monde là quand même ce soir.
Ben là, ils sont une trentaine, je pense.
Ça fait une grande table.
Ouais, ça fait une très grande table, toute blanche. Au milieu de la prairie.
Mais à peu près, tu vois, ça a à peu près fait envie, mais je ne sais pas trop la gare. Alors,
à la limite, s'il y a un plus gros pourcentage,
il faut parler du lieu. Moi, je trouve que c'est bien de la dessiner.
Les sujets, là, il y en a 7 qui sont proposés. Ça tourne à la fois autour de. De la gare, il y a, c'est quoi la première impression que j'ai vu la gare, c'est quoi mon lien avec ce quartier. Ça tourne autour du territoire, mon rapport au territoire, l'endroit que je préfère dans le monde, pourquoi je suis ici, qu'on peut interpréter de plein de façons. Hein. Et ça tourne aussi un petit peu autour du travail. Je crois qu'il y a 2 questions sur le travail, parce que comme la gare, le quartier de la gare, c'est un endroit où il y a aussi d'autres façons de travailler qui sont là, on voulait faire causer de ça aussi des gens. Okay. Voilà. C'est un choix, tout ce qu'il y a de plus subjectif. Hein.
Oui, encore.
Oui.
Moi, je suis Aurélie Martin, je viens de l'avenue de la gare, juste au-dessus. Et je suis animatrice dans ma vie. Du coup, une partie de mon métier, c'est de faire que les gens, quand ils sont ensemble, ils sont bien, ils produisent des choses collectivement, ils se rencontrent, tout ça, quoi.
Et l'idée du speed meeting, c'est quelque chose que vous faites d'habitude ou c'est venu en discutant avec Quartier Rouge?
Ben, c'est un peu les deux. C'est quelque chose que j'ai déjà fait dans d'autres occasions, mais rarement sous ce format-là. là, c'est plus ouvert dans le sens où c'était n'importe qui pouvait venir. Donc, il y a des habitants, il y a aussi des gens qui sont là pour le festival Horizon Géographique. Voilà, c'est assez varié. Et ça, c'est la première fois que je fais ouvert comme ça. Et c'est venu dans le sens où on a causé avec les filles de Quartier Rouge pour se dire, ah bah tiens, on veut un endroit, à un moment donné dans le festival où il y a vraiment de la rencontre, et c'est quoi l'outil le plus approprié, quoi. Okay. Voilà.
Et pour moi, le territoire, il est ici maintenant, vraiment complètement. Je m'en vais souvent assez loin, ça m'arrive, très loin même, de l'autre côté, comme d'autres gens. Là.
Et quand j'arrive ici, c'est très net.
Allez. Du coup, je disais qu'il est 8h. Ça pourrait être l'heure de manger, par exemple. C'est prêt, là, derrière. Et il y a un buffet qui est à disposition, là. Du coup, maintenant, vous êtes free, quoi, dans vos échanges. Le cadre est fini. Continuez bien la discussion.
Merci Charlène pour cette petite immersion.
De rien.
Oula, il y a eu une petite tentative de mettre le petit son avant.
Et maintenant c'est le moment qu'on attend un peu tous, puisqu'hier, vous comme nous, on a été privés de l'épisode 3 du Western. Jimmy, qu'est-ce qui s'est passé ?
J'écrivais l'épisode 3 pour aujourd'hui, pour faire encore mieux.
Cool.
Vous avez eu le droit pour l'instant à des petites tentatives entre immersion dans des films et moi qui traînais mes guêtres autour de la gare. Sauf qu'aujourd'hui, on change un peu les règles du jeu. On va se le tenter en direct avec donc, l'équipe qui improvise ou suit un peu le texte. Je pars à la rencontre de différents personnages. C'est parti. Résumé de l'épisode précédent, Catherine Deneuve est morte, je poursuis Franck qui poursuit les voleurs, qui poursuivent même Lord qui a été volé à la gare, la police ne sait rien et la SNCF non plus.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses.
Après une folle course-poursuite dans les faubourgs de Felletin, j'ai perdu la trace de Franck et des tueurs voleurs d'or de la gare. Donc, j'ai perdu leur trace et je reviens à la gare. Où là, une foule des habitants s'est rassemblée. La police interroge un suspect.
Dis donc, ton article, il était faux, hein ?
Mais c'est exact, il était faux.
Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai ?
Ben, c'est pourtant vrai.
Mais qu'est-ce qui est vrai, que tout le monde croit qu'il était vrai ?
Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux.
C'est pourtant vrai qu'il était faux. Oui, enfin bon, alors, admettons ce mensonge. Alors, pourquoi Fantomas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti ?
Mais justement, parce que j'avais menti.
Tu mens ! Tu mens ! Il ment !
Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais...
Tais-toi !
Non, écoute.
Je ne te permets pas de me vouvoyer ! Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer, ça suffit, hein ! Ça suffit, hein ! Écoutez, visiblement cet homme est épuisé, il ne peut plus suivre un raisonnement logique, alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, promenez-le dans sa cellule.
Voyant que ça rame un peu et que le commissaire est toujours aussi incompréhensible, je ressors de la gare, je mène l'enquête. Pour toi, petit auditeur de Radio Felletin, j'ai envie de percer le mystère, pour l'honneur de Catherine et peut-être pour retrouver l'or. Je m'approche et je me dirige vers les premiers habitants que j'aperçois. Bonjour. Vous avez quelques informations, mais vous savez, l'or de la gare qui a été volé, mais... Pourquoi voler l'or ? Où était-il ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
L'or était bien caché dans la gare.
Moi, ce qu'on m'a dit, enfin, ce qu'on entend ici, parce que c'est un petit village quand même, c'est qu'il appartenait aux agents SNCF.
Ah bon ?
Mais il paraît qu'ils avaient privatisé un TER et ils ont vendu la gare au plus offrant.
Non.
Si, si, mais on m'a dit même qu'il préparait une vengeance.
Ah bon ?
Il est complètement fou, ce mec ! Mais moi, les dingues, je les soigne. Je m'en vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
Si mais alors, toi, pourquoi avoir tué Catherine Deneuve ?
Ah bah ça, vous savez... On entend des choses, des histoires.
Je serai jaloux. Mais je t'aime. Et cela me rend orgueilleux. Et envieux parce que j'ai toujours envie de te.
Au fond, je ne t'inspire que de très vilains sentiments.
Et aussi gourmand et luxurieux.
Et bavard. Tu t'écoutes parler, tu n'aimes que toi.
Moi et toi, je t'aime.
C'est pour me dire ça que tu voulais me voir.
Tu ne m'aimes pas, mon cœur, et pourtant un jour tu seras ma femme.
Je t'ai déjà dit non, Guillaume.
Alors pourquoi viens-tu ?
Parce que tu m'amuses. Mais si tu y tiens, je peux ne plus venir.
En vrai, on le sait tous, la Catherine, elle blanchissait de l'argent avec Franck le mafieux.
Oui, mais ce n'est pas qu'une histoire de pognon.
Il y a du cul aussi.
Ouais, grave.
Ah non, j'aime beaucoup les deux. Et là, vraiment, il y a pas de... on peut pas choisir. Je vois pas pourquoi il faudrait choisir d'abord. Oh non, non, c'est pas pareil. Bon, ah non, j'aime beaucoup les deux.
Merci.
J'aime beaucoup, beaucoup les deux, mais j'ai passé une très, très belle soirée.
Mais alors, Catherine, qui... Elle était comment ?
Bah, c'est un peu une fille légère, quoi.
Ouais, un peu... si vous voyez ce que je veux dire, quoi.
Non, je crois qu'Arnaud a vraiment la carrure. Enfin, je dis pas ça parce que j'ai beaucoup d'atomes crochés avec lui. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est cette foutue charte, hein. Ça, je dois dire que j'ai été heureuse de la réaction d'Arnaud, hein, ce qui n'était pas forcément évident.
Oui, c'est surtout pour Alban que ça ne doit pas être évident.
Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez avec son petit souci de testicules supplémentaires Ça, moi, j'ai toujours été honnête. Hein. Non, parce que j'ai beau avoir la réputation d'être quelqu'un de plutôt décontracté, j'aime pas beaucoup ça.
Mais alors, Catherine n'était pas si pure que ça ?
Oh non, elle traînait dans des choses un peu louches.
Mais dites pas, moi, pas que c'est pas vrai.
Si !
Mais dis-moi pas que c'est pas vrai!
Va-t-on enfin retrouver l'or? Les agents SNCF pardon, seront-ils inquiétés par la police? Pourquoi Catherine Deneuve traînait avec Franck le mafieux, mais qui était-elle vraiment? Vous le saurez en écoutant la suite de Panique à la gare de Felletin. Bon, l'équipe est partie se reposer parce que c'était quand même un peu épuisant, mais il y a Thomas qui nous a rejoint. Salut Thomas.
Salut Jimmy, salut tout le monde.
Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Des sons.
Des sons, oui, des sons un peu spéciaux. Ici, on est à Horizon Géographique et ça parle pas mal de cartographie, de géographie et tout ça. Moi, j'y connais rien. Et moi, j'aime bien le son. Et donc, j'ai un micro qui est un petit peu particulier. Ce micro, il capte les ondes électromagnétiques. Et donc, je me suis essayé à arpenter un peu les environs de la gare et à chercher en fait des points, prendre des sons en fait, essayer de cartographier, faire des points un peu d'écoute.
Donc de choses qui émettent des ondes.
Voilà, c'est ça.
Électromagnétiques.
Et donc là, on entend un peu. On peut entendre le micro qui vient d'être branché. Et donc je vous ai préparé quelques petits sons. Je ne sais pas si on va pouvoir tous les passer.
Ouais.
Surtout que c'est assez exigeant quand même comme écoute. Hein. C'est assez bruitiste. Hein. C'est du bruit électromagnétique. Donc moi ça me plaît, mais je sais.
Tu vas nous les commenter pour nous expliquer un peu où tu
les
as trouvés.
Ouais. Je vous lance le premier et puis on peut en parler peut-être un petit peu après avant de lancer le deuxième.
La gare de Feltin. Et on va essayer de prendre une prise de son quand l'antenne radio est débranchée. Et une fois qu'elle est branchée, je vais essayer de me placer au même endroit devant le panneau SNCF. C'est parti.
Alors voilà, là j'étais placé devant la gare, on entend une espèce de fond sonore comme un bruit blanc et puis quelques petits scintillements en fait qui peuvent être, alors je sais pas exactement ce que c'est, mais pour moi c'est peut-être des téléphones, il y avait des gens qui étaient à l'étage et peut-être qu'on entend de loin en fait les téléphones des gens qui étaient à l'intérieur du bâtiment et puis je suis allé aussi à côté du transformateur électrique. Et là, c'est une espèce d'explosion, en fait. Et donc, je pense que de loin, voilà ce qu'on entend. C'est vrai que c'est assez ténu, quand même, comme son. Et là, pour le coup, pour le deuxième, je me suis rapproché un peu plus de personnes. Je suis rentré à l'intérieur de la gare. Voilà, on peut écouter.
Alors là, je vais enregistrer les ondes électromagnétiques autour de Pierre qui est en train de travailler.
Pierre rayonne.
Voilà, on peut écouter un peu plus. Là, ça part un peu en sucette, là. Je sais pas si on entend bien, mais en tout cas...
Ça fait comme des petites vagues, des vaguelettes un peu longues comme ça. Et parce que toi, tu bouges ou tu arrives sur des nouveaux objets?
Ouais, en fait, je me baladais sur son ordinateur. Il était en train de faire du montage pour l'émission de ce soir. Et donc, je me baladais sur son ordinateur et c'est impressionnant la variété en fait, des sons qu'on peut écouter, hein, que ce soit la batterie, les processeurs, la carte graphique. En fait, il y a tout qui fait un bruit bien spécifique. Et en fait, juste à côté de lui, voilà, j'ai juste eu à me déplacer et voilà, j'introduis dans le son, bon, on peut l'écouter.
Je suis toujours dans l'espace cuisine et là je vais prendre une prise de son de l'imprimante. Je vais me balader autour d'elle et puis on va écouter les champs magnétiques qu'elle produit.
Bon, et puis j'en avais marre un peu de tout ce bruit, du coup je suis allé.
Bah ouais.
J'en avais plein les oreilles, du coup je suis allé à côté du puits pour me ressourcer, et voilà ce que j'ai entendu à côté du puits.
Mais donc ça, c'est pas l'eau?
Non, c'est pas l'eau du puits, puisque je pense que l'eau ne produit pas d'ondes électromagnétiques, quoique. Et en fait, voilà, on entend c'est un fond, en fait. Je pense que c'est une sorte de brouillard, quoi, qui doit être permanent, en fait, autour de nous, forcément. Et donc, voilà. Donc, c'est pas forcément, en fait, les endroits les plus calmes qui sont... Enfin, voilà, je pense qu'on n'est pas à l'abri, en fait.
Et moi, j'ai une question.
Oui.
Est-ce que t'en as tout le temps du son électromagnétique quand tu mets en route ton micro?
Ouais.
Ou alors t'as des moments où t'en as pas du tout?
Non, j'en ai tout le temps.
T'en
en fait,
temps,
j'ai jamais essayé après, j'ai jamais essayé en pleine forêt, ouais. Tu vois, loin des antennes, mais à mon avis, on entend. Il y a toujours ce fond, en fait, ce sonore qui est. Comment dire? Et c'est la même chose, en fait, pour le bruit ambiant, même si on est reculé, dans des endroits reculés, il y a toujours en fond les avions, quoi, qui sont
au-dessus. Il est toujours humain, ou la Terre, elle émet aussi un champ électromagnétique que tu peux réceptionner avec...
Elle émet un champ électromagnétique, mais tu pourrais pas les capter, ou alors il faudrait le convertir pour qu'il soit audible, puisque la fréquence de la Terre, elle va, bien sûr, bien en dessous de l'audible, vers les 7-8 Hertz. Et ça, bon, il n'y a que des appareils spécifiques qui peuvent le... En tout cas, moi, mon micro ne peut pas les capter. Et je ne sais pas si on a le temps, mais très vite, pour un dernier. En fait, je suis allé cet après-midi, donc au premier étage. Il y avait une dizaine de personnes qui étaient réunies pour l'atelier sur la théorie. Et donc, je me suis placé au milieu de ces 10 personnes. Et voilà ce que j'ai pu entendre.
On entend le... Donc ça, c'est le champ électromagnétique que produit une poignée de théoriciens.
Ouais, c'est ça. C'est quand ils sont à pleine puissance, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent à 100%. C'est, en fait, c'est voilà, les neurones qui s'entrechoquent, je crois, les synapses qu'on entend. Non, et c'est surtout les... Voilà, là, on entend les ordinateurs et les téléphones portables. Voilà, moi je trouve ça assez beau, ces champs électromagnétiques, et à la fois assez inquiétant.
Bah merci de nous, je vais pas dire rendre visible, mais audible, ces petites choses qu'on n'entend pas, nous. Moi je trouve ça légèrement inquiétant, ça, quand même, mais bon, si c'est là et que ça nous fait pas trop de mal...
À voir. J'ai pas la réponse.
Merci beaucoup Thomas.
De rien, merci à vous.
On va vous... Non, William, je voyais William qui jouait un petit peu avec le micro en question qui est branché à la table, mais bon. On jouera un autre moment. Et puis on vous ramènera les sons. Ah voilà, ça arrive. Donc ça me permet de faire une super transition sur William qui agite le petit micro. Je me dirige vers Claire qui nous présente un quiz.
Tout à fait.
Pour finir.
Oui, est-ce que vous avez envie de jouer?
Bah oui.
Ouais.
Parce que je vous propose de vous rapprocher. Oui. Alors nous sommes à Felletin, n'est-ce pas? Et je vous propose un petit quiz à la découverte de cette charmante bourgade. Et Fanny me fait signe à la technique qu'il reste 10 minutes. C'est parfait.
Just in time.
Alors, avec l'aide d'Edwige, de l'Office de tourisme et de Claude, qui est un habitant de Felletin, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous êtes prêts pour la première?
Oui.
Alors, je me suis demandé et je vous demande, que peut-on visiter à Felletin?
Une église.
L'église.
Une exposition de tapisserie.
De Marc oui. Petit.
Une diamanterie.
Oui.
La petite maison rouge.
Oui.
La gare.
La gare, ouais.
La gare.
Ok, mais je crois que vous êtes plus au point qu'Edwige, mais on écoute quand même sa réponse.
Vous pouvez découvrir là, tout au long de l'été la filière laine avec les visites de manufactures de tapisserie. Vous avez une belle exposition de tapisserie dans l'église du château qui est consacrée à un artiste qui s'appelle Marc Petit. On parlait tout à l'heure de la coopérative diamantaire, cet ancien atelier de taille de diamants. Il faut savoir qu'on a taillé du diamant à Feltin jusqu'en 1982.
Alors, le diamant, parlons-en. Pourquoi taillait-on le diamant à Feltin précisément ?
Parce qu'il l'importait de Hollande et le taillait ici.
Oui, mais
parce qu'il y avait, parce qu'il y a la Creuse, non ?
Parce qu'il faut de l'eau.
Parce qu'il faut de l'eau, il y avait les moulins pour alimenter les moulins.
Non.
Parce que c'est moins cher en Creuse qu'en Hollande.
Parce qu'en fait, c'était un mec de Paris qui est venu, qui était originaire de Feltin et qui a décidé d'ouvrir une diamanterie ici à Feltin parce que les tapisseries, elles rapportaient plus cet argent.
Alors, oui, il y avait plein de bonnes volontés. mais ce n'est pas d'argent. La bonne réponse. Une histoire d'argent, on me souffle derrière. Charlène, non plus. Okay. Quelqu'un d'autre ?
Est-ce qu'il y avait une roche dans le coin
Non.
Parce qu'il y a des petites fées dans la forêt, elles adorent les diamants.
Presque. Eh bien, on écoute Edwige.
Pourquoi Feltin ? Parce qu'en fait, on avait une main-d'œuvre qualifiée, issue des ateliers de tapisserie, qui avait l'habitude en fait, de travailler à ce travail précis, minutieux de la tapisserie, qui s'est très bien reconverti en fait, à la taille du diamant. Dès la fin du 19e siècle jusqu'en 1982.
Voilà, vous savez tout.
Moi, je pense qu'on peut donner le point à William.
Ah ouais, parce qu'il a mis de la tapisserie. Il a mis de la bonne volonté.
On compte pas les points.
Alors, je me demandais combien de touristes à l'année on a à Feltin. Je ne sais pas si vous en avez vu.
Non. Allez, 4500.
4500, qui dit mieux ? C'est plus, c'est plus.
J'ai croisé pas mal de monde.
Non, c'est beaucoup moins.
8000.
Peut-être pas 4500.
8000, on approche.
6000. 6000.
Une dernière proposition et j'envoie la réponse.
8753.
Fabien ?
10 000.
Eh bien, c'est la bonne réponse. Edwige ?
À peu près 10 000 personnes qui passent par an. Alors là, cet après-midi, c'est calme parce que la chaleur oblige, tout le monde est parti au bord de l'eau. C'est à peu près.
Qu'est-ce qui s'est passé,
Beron ? On a chanté, Edwige.
Ça a été mal coupé ici.
En tout cas, on a la réponse.
Alors, oui, on a des touristes qui viennent de Bretagne, essentiellement, je peux témoigner, effectivement.
Merci.
Voilà, des gens qui viennent du nord de la France, d'Aquitaine, et même des Australiens et des Russes. Ah, voilà. Ouais. Il s'en passe des choses à Feltin, c'est moi qui vous le dis. Alors, justement, combien d'habitants à Feltin, d'après vous ?
1300. En 2015.
En 2015.
En quelle année ? Oui, j'ai fait des recherches.
Combien ?
1492 ou 1500 maximum en 2015.
1300, moi, on m'a dit.
Ah, bah ça a descendu alors.
On n'est pas loin.
C'est à peu près 1800 habitants. Sachant qu'ici, on a compté jusqu'à 6000 habitants au plus fort de l'activité textile, mais ça, c'était il y a plusieurs siècles déjà.
Voilà. C'est bon, Edwige ? Ok. J'interromps juste le petit quiz parce que Edwige a une autre proposition à nous faire de visite.
Alors, un autre bon plan, il faut monter au clocher de l'église. Franchement, vous avez un beau panorama sur le bourg et sur tous les alentours.
Curiosité oblige, j'ai couru rencontrer l'association qui s'en occupe.
Bonjour, monsieur, dame.
Bonjour.
Je suis bien aux portes du monde ?
Oui.
Très bien.
Oui, c'est le nom de l'association où j'ai rencontré Claude, qui nous pose une question à la fin. Soyez attentifs.
Oui. Avec ma collègue.
Ah, je vois ça avec votre collègue.
Je fais uniquement les réservations.
Ah d'accord,
je
chacun sa...
Je fais partie de l'association.
Mais chacun sa tâche.
Chacun sa tâche.
Oui.
Non mais au bureau, c'était...
Très bien.
Là, elle est avec Radio France Creuse.
Oui,
parce qu'il y a des places à gagner, donc on est en train de...
Il y a des places à gagner pour quoi ?
Et pour le festival.
Pour le festival qui a lieu, je vois ça là, du 1er au 5 août.
Oui,
1er ça 5 amène août. Du monde.
On juste à côté de vous, en bas là-bas.
Ah oui, bah parce que nous après on sera partis. Avant
le festival. Restez avec nous.
Bah, j'hésite, je réfléchis. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce festival ?
Bah, on a quand même pas mal de groupes. Mais moi, je prends un groupe. On a le Brésil, on a le Costa Rica, on a la Palestine, on a le Botswana, on a le Népal. Là, on a tous les groupes ce soir-là. Alors, le reste des groupes, c'est la Serbie, le Kirghizistan et la République des Komis. Est-ce que vous connaissez où elle est, celle-là ?
Alors, est-ce que vous connaissez la République des Komis ?
C'est
ça se trouve où ?
Là où ils font tous les Komis des villages.
À la campagne.
À la campagne ?
Là où il y a toutes les petites Komis de cuisine.
Ça se trouve où ? Au nord, au sud du club ?
Au sud.
Au sud, c'est plutôt au nord, mais on y était présents.
En Grèce.
C'est froid, c'est très froid.
Ah, on est chez des Inuits.
Les Komis, elle est à côté du Norvège.
Pas loin. Oh,
la réponse a fuité. Attention, on n'a pas entendu. On relance.
La République des Komis, elle est à côté du Groenland.
D'accord.
À côté.
Tout
au
fond. Elle est
indépendante.
Ouais. Non, c'est russe.
Ah, c'est russe.
C'est russe. Oui. Donc, ils sont pas loin de.
D'accord.
Au sud de la Norvège.
Alors, revenons-en à notre clocher, parce qu'on va aller le visiter tous ensemble. C'est parti. Alors, on entre dans l'église, qui s'appelle comment d'ailleurs ?
Alors, c'est Sainte-Valérie du Moutier.
Ah, elle a un joli nom.
Alors, Sainte-Valérie, pourquoi ?
Oui.
Parce que Sainte-Valérie, c'est la patronne des moines. Et ici, à Vange, c'était même pas une église, c'était une abbatiale.
D'accord.
Et à côté, on avait un cloître. Qui était là, qui a été tout démoli, là où est le jardin maintenant. D'ailleurs, il s'appelle le jardin du cloître. Ici vivaient des moines, et où on a notre bureau, c'était la boulangerie. Dans le sous-sol, on a encore le four. Le four à pain existe toujours. Et tous ces bâtiments, c'était tout construit, toute la petite rue, là, c'était tout construit pour l'abbatiale.
Bon, moi, j'ai appris des choses aujourd'hui. Et donc, la dernière question que vous attendez tous, c'est la suivante. De combien de marches est constitué l'escalier qui mène jusqu'au clocher de l'église ?
35.
58.
Est-ce qu'on peut avoir la hauteur en mètres du clocher de l'église ?
Eh bien, pas du tout.
132.
Ce serait trop facile.
256.
Alors, peut-être un petit indice sonore pour vous aider. Une marche ? Hop, c'est
Oula,
la
c'est
réponse.
On a failli entendre la réponse là.
C'est le numéro. Il n'y a pas d'indice sonore.
Il n'y a pas. Tu veux pas le faire ?
Ce n'est pas grave. C'était ma montée des marches. Bon, on en était où ? C'est moins de 250.
138.
225.
Moins de 225. Plus
73.
Moins, un peu moins.
73. Ah non, t'as dit combien ?
Ah,
on va essayer de s'écouter. 192, un tout petit peu moins.
191, 10,
un peu moins.
9,
un peu
8,
moins.
180,
si, William, la bonne réponse. 189 marches,
ouais.
Voilà. Eh bien, je tiens à vous remercier, bravo, car c'est la fin de ce magnifique quiz sur
merci
la découverte de Claire.
Et donc nous reprenons tout de suite, on se dépêche, il nous reste combien de temps ? Il nous reste 3 minutes pour finir et laisser la parole, 1 minute pour laisser la parole à Radio Vassivière qui enchaîne parce que demain ils reprennent quand ils nous diffusent entre 11h et 12h. Alors on fait un petit coucou à Radio Vassivière.
Coucou Radio Vassivière.
Merci les amis d'avoir participé à cette belle émission. Nous, pas fait le temps, on se retrouve demain aux alentours 18h pour un autre live et n'hésitez pas à nous écouter en bande FM sur le 106.6 à Feltin. C'est parti. On vous laisse avec une petite musique. Au revoir.